premier étage. Je te réunis en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelques poussins crient. Y'a du partout dans la tour. Y'a du bastou dans la tour. Y'a du bastou dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Faites à saccager les pions. J'ai dit, allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Sortie de la Bandura. C'est un top pour l'armée si vous arrêtez pas. Tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de l'Envolée comme tous les vendredis de 19h à 20h30 sur FPP Fréquence Paris Pluriel 106.3. Donc pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, l'Envolée-FPP 75 019 Paris. Pour nous appeler, alors pendant l'émission en direct, ça va être au 01 40 05 06 10. Et sinon, le reste de la semaine, vous pouvez nous joindre au 07 52 40 22 48. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site l'envolée.net avec voilà, des liens pour nous retrouver sur les différents réseaux sociaux.
Il y a du monde autour de la table. Tout d'abord, un grand merci à Lucien qui vient nous sauver la main pour faire la technique. Donc c'était Alex. C'est Alex qui va nous appeler dans pas trop longtemps. Excuse Arthur, c'était Arthur qui était là pour débuter l'émission. Salut Tierno. C'est bien dit ?
Oui, c'est bien.
Ouais, c'est bon. Et coucou Adja. Merci d'être là. Bah, donc on parlera tout à l'heure, là, après avoir lu les lettres avec vous, de la marche que vous organisez le week-end prochain pour Ibo. Et une plaque aussi que vous allez mettre mercredi. On va commencer avec des lettres,
je crois que tu voulais tout d'abord nous dire un petit mot de.
Non, mais c'est juste, il y a quand même un truc qui aujourd'hui a commencé, et je crois qu'on a Alex au téléphone.
Salut.
Ça va ?
Ça va et vous ?
Ça va, ça va. C'est bien quand t'es en vacances, t'es pas en vacances.
Ouais, ça change, hein.
C'est ça. L'idée c'était quand même un peu de parler. Enfin voilà, aujourd'hui vient d'être promulguée la loi, enfin le décret là, qui change complètement la manière dont on va calculer le chômage, qui va foutre énormément de personnes sur le carreau. Et en fait, c'est pas par hasard s'ils font ça maintenant. Dans une même période où ils disent que bah ils construisent des places de prison et tout ça, un des trucs qui va en parallèle de ça, c'est que donc de ce décret là qui va diminuer pour la moitié des personnes, ça va diminuer 30% leurs revenus, donc ce qui est vraiment monstrueux quoi. Et ils ont déjà commencé à filer parce que ont les surveillants en détention quand il y a un truc qui se passe pas bien avec un prisonnier, ils ont un bouton sur lequel ils appellent et il y a tous les matons qui rappliquent. Et ben là, ils ont créé la même chose, ça va être les agents de Pôle emploi qui vont avoir ces boutons. Voilà, parce qu'en fait, ils savent que en fait, on est en face de personnes qui jouent leur vie, en fait, qui sont déjà dans de la survie. Voilà, et donc bah, les personnes qui vont plus pouvoir survivre, bah, y a un moment, il y a la débrouille. Voilà, et donc bah, en parallèle, on continue à construire des nouvelles places de prison. Et je crois que Dupond-Moretti était aujourd'hui sur le lieu de construction de la nouvelle tôle à Tremblay, où il sera la semaine prochaine. Voilà, et donc c'est une avancée globale. Voilà, on a l'impression que c'est juste une attaque contre les chômeurs. Bah non, en fait, c'est un truc global, sociétal. Voilà, et donc ça nous semblait quand même important de commencer par ce petit point d'actualité. Voilà. Et on espère que ça sera défoncé par les luttes syndicales qui font à minima le job à ce niveau-là.
On profite juste pour dire que le 5 octobre, du coup, il y a un appel à mobilisation partout pour celles et ceux qui sont dehors pour lutter contre cette réforme. Voilà.
Ouais, pour cette réforme notamment, parce que il y a plein de. Non, c'est juste, c'est un appel.
Ouais. C'est un appel pour lutter contre tout ce qui est en train de se passer avec Macron, mais ouais. Là, vu que c'est la réforme du moment.
C'est ça.
On va dire que voilà. Mm-mm.
Donc voilà, on va commencer avec des lettres. On va avoir des grandes lettres et des belles lettres qu'on fait hyper plaisir à recevoir.
Ouais, c'est ça. En fait, ça fait assez longtemps qu'on n'a pas eu autant de lettres et des lettres aussi longues. En plus, c'est des gens, des correspondants et correspondantes assez réguliers. Enfin, des gens avec qui on échange depuis un petit bout de temps. Et en plus, il y en a plusieurs là qui. Alors, il y en a qui étaient déjà là, mais il y en a aussi deux là qui ont été transférés récemment en région parisienne et qui du coup nous entendent depuis quelques semaines. Donc, ça fait assez plaisir qu'ils nous font des petits retours là sur les dernières émissions. Donc voilà, ça fait plaisir que la discussion comme ça puisse continuer. Donc voilà, dans les lettres qu'on va lire, il y en a deux qui reviennent, notamment sur l'émission où Charlotte était venue présenter son livre il y a, alors je crois, une ou deux semaines.
Bah ouais, et en vrai, faut pas hésiter. C'est vraiment cool de commenter. Alors en plus, vous êtes sympa. Mais même quand il y a des trucs qui vous conviennent pas et tout ça, faut pas hésiter à nous le dire. Je crois que je me souviens d'Afed qui disait je vais vous dire tellement de merde à cette antenne que vous allez tous nous écrire à l'intérieur. Voilà. Bon, l'idée c'est pas non plus de faire ça, mais en tout cas voilà. Et là, c'est super sympa. Mais s'il y a des trucs aussi qui vous conviennent pas, faut pas hésiter quoi. Tu veux commencer ?
Ok. Alors je vais commencer par une lettre de Youssef, donc qui a été transférée là récemment à Fresnes, avec qui on a déjà lu plusieurs lettres à l'antenne. On a publié aussi dans les deux derniers numéros du journal. Et donc ça fait un certain temps maintenant qu'on est en lien avec lui. Il avait notamment, il nous avait parlé aussi de un peu ce qu'il avait subi à la maison d'arrêt où il était avant, où ils étaient 4 ou 5 dans la cellule, où il est resté plus de 5 ans dans cette maison d'arrêt en attendant là enfin son passage au CNE pour pouvoir être affecté en centrale pour le reste de sa peine. Donc voilà, il en a bien bavé. Et là, donc, il nous entend depuis quelques semaines. Et donc, je vais vous lire sa lettre. Alors du coup, j'espère, Youssef, tu nous entends encore. Et je m'excuse parce que j'ai mal photocopié la lettre. Et donc, il y a peut-être des mots que je vais mal lire. Mais voilà, je vais essayer de m'appliquer, que ce soit... en tout cas, de ne pas trahir tout ce que tu as dit. Alors, merci pour le coucou à la radio. J'étais content et ça fait plaisir. J'ai écouté l'émission dans son intégralité. J'ai été très ému et certains témoignages m'ont bouleversé. comme le calvaire de Boris qui est à l'hôpital. Son feu de cellule est la conséquence directe de l'administration pénitentiaire. Quand tu es désespéré ou que tu protestes, tu peux finir dans des extrêmes. Souvent, nous sommes poussés à la faute. À Angoulême, j'ai failli en arriver là lors de ma mise à l'isolement. Pour accéder à l'UXA, donc l'unité de soins en détention, là-bas, ils s'en foutent. Ils te poussent même carrément au suicide. C'est dramatique. J'espère qu'il s'en sortira. J'ai écouté attentivement le témoignage téléphonique. Je ne sais plus son nom, je crois Sylvie. Elle est vraie et décrit parfaitement les conditions de la plupart d'entre nous. Le plus compliqué pour nous, c'est de faire sortir l'info. Trop de souffrance dans nos prisons françaises. Nous devrions prendre exemple sur certains de nos voisins. 19 condamnations à la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas rien et notre gouvernement ne réagit pas. Si, en construisant de nouvelles prisons. C'est tellement rentable, la prison. Et la prison est lucrative. Tout le monde dit qu'il coûte tant. Mais jamais tu ne verras combien rapporte un détenu. Travail à 2 euros brut de l'heure, télé, frigo, cantine, téléphone. Nous sommes asservis. Nous marchons en coupe réglée, l'un derrière l'autre, dans un bagne remis au goût du jour, par une mort lente et silencieuse. J'ai une phrase en tête de Neil Young. Il vaut mieux brûler franchement que mourir à petit feu. Cette peine de mort commuée en perpète, c'est la destruction de l'individu. Ces peines n'ont aucun sens. Doit-on s'en féliciter de cette abolition ? Bien non. C'est les peines entières qu'il faut revoir. C'est de la souffrance 24 heures sur 24, sans répit. Les jours s'assemblent et se ressemblent. Certains deviennent l'ombre d'eux-mêmes. D'autres basculent dans la folie et beaucoup se suicident, un tous les trois jours. Je trouve cette situation alarmante. Un jour, tout va prendre feu. Et maintenant, ils sont équipés de flashballs. Les mutilations et bavures vont se multiplier dans les prochaines années. Il faut se battre pour nos droits, le respect et la dignité. Je prendrai le bouquin de Charlotte dès mon arrivée en centre de détention, en CD, car il doit être une mine d'infos et de témoignages poignants. Elle décrit bien les parloirs, nos familles maltraitées. À Angoulême, avant le parloir, j'avais 20 minutes d'attente et après le parloir, 25 minutes. 45 minutes donc au total pour 45 minutes de parloir. Plus les fouilles à nu intégrales dont j'ai fait l'objet. En 5 ans et demi, j'ai été le plus fouillé de la maison d'arrêt. En plus des fouilles de cellules avec des motifs fallacieux, seulement parce que je leur tiens tête et je suis un minimum instruit et que je me bats contre leur système du tout sécuritaire où l'humain est complètement anéanti. Le témoignage du centre de rétention, waouh, c'est atroce. Ce qu'ici la société cache bien la vérité aux gens. Et après, tu vois la Le Pen qui les fustige, leur met tout sur le dos. Je ne sais pas de quoi ils profitent, ces gens. Leurs conditions sont indignes de la France, entre guillemets le pays des droits de l'homme. Moi, je passe le vendredi 24 au TGI d'Angoulême pour le surveillant qui se pose en victime et le mitard où j'ai été torturé, menacé, sans soins, sans chauffage, à poil. J'ai dû boire l'eau des chiottes pour pas clamser. Lui, il n'a eu qu'un jour d'ITT. De plus, ils ont trafiqué leur compte-rendu d'incident, des connivences dans lesquelles la maison d'arrêt d'Angoulême excelle. Je ne lâche rien et je vais me battre. Je compte sur vous, les poteaux, j'ai la FO pénitentiaire sur le dos. Je les appelle les Calimero d'Angoulême, ils font ce qu'ils veulent. Je capte nickel la station en division 2 à Fresnes, mais je me crois au 19e siècle. Mais bon, je gère, j'ai le moral. J'attends mon affectation avec impatience. Dès que je l'ai, je vais demander à aller à Réau. Ils m'ont enfin mis la lumière en cellule. 8 jours dans une semi-obscurité, ce n'est pas facile. Les parloirs en sous-sol laissent tomber. C'est de la folie. Rien d'agréable. Vous êtes une bonne équipe à la radio. J'ai noté vos noms. Pour la musique que vous passez, c'est vous qui faites les choix. Et j'occupe mon temps entre le sport, la promenade, le courrier, la lecture, musique et compo. Cela m'évite de cogiter. Salut à tous.
Bah, Youssef, franchement, merci beaucoup, beaucoup pour cette lettre. Si tu as des critiques musicales, hésite pas.
C'est bien nous qui choisissons la musique.
Mais ouais, voilà. Parce que c'est nous qui choisissons. Voilà. Et
d'ailleurs, si tu veux qu'on passe un morceau aussi.
Grave, hésite pas, ça fera plaisir et tout ça. Et je t'avoue qu'à chaque fois, on galère toujours un petit peu pour trouver les sons. Donc, hésite pas si tu as des idées et tout. Il y a vraiment énormément de choses dans ta lettre, mais déjà vraiment ce truc de que tu rebondisses sur tout ce que tu as entendu et tout ça, c'est vraiment hyper chouette. Moi je voulais rebondir sur un truc que tu disais avec d'avoir FO sur le dos, parce que bon bah FO pénitentiaire, donc c'est un syndicat qu'on connaît bien, qui est un syndicat qui insulte les prisonniers à longueur de journée, et dès que ils sont violents envers quelqu'un, ils se protègent tous. Et là, le dernier exemple en date, c'est que à Condé-sur-Sarthe, ça y est, pour la première fois, ils ont enfin entendu qu'il y avait des violences au quartier d'isolement, des insultes nazies et autres. Et donc là, ils font un communiqué en disant c'est la direction qui est contre notre dos et tout ça, voilà. Et donc ils sont toujours en train de se serrer les coudes. C'est pas que le cas de la part de FO. Hein. On peut rappeler la CGT pénitentiaire qui a fait un communiqué pour interdire le journal à l'intérieur de la détention, donc le numéro 51 qui a été censuré. Le numéro 52 pardon, qui a été censuré par l'administration pénitentiaire, et aussi même FO qui a fait des communiqués pour le même CGT pardon, qui a fait des communiqués pour attaquer le surveillant qui témoignait des violences subies par Jimoni Amo à la suite de sa mort quoi, et du tabassage qu'il avait subi. Donc voilà, donc ces syndicats, c'est toujours les mêmes, ils se serrent les coudes. Et donc quand tu dis j'ai FO sur le dos, en fait, ça a vraiment beaucoup de sens. C'est que c'est des gens qui se serrent les coudes et qui sont contre les prisonniers et les prisonnières à l'intérieur. Voilà, et donc c'est important de le dire dans ces termes-là, quoi. Ils t'ont pris en grippe, voilà, et après, derrière, ils vont aller au tribunal, tout ça, aller grappiller leur 13e mois, comme tu le dis, faire des faux CRI, enfin voilà. On en parlera aussi sur les violences policières, c'est toujours la même chose en fait, c'est eux qui écrivent les PV, donc en fait ils mettent ce qu'ils veulent dedans, voilà, donc là ça, en tôle ça s'appelle pas des PV, ça s'appelle des CRI, mais c'est exactement la même chose quoi.
Okay. Ouais, et puis ces syndicats, enfin on en parle souvent ici, c'est aussi un peu comme les syndicats de keuf, c'est ouais. Ils demandent toujours en fait être plus équipés, avoir plus d'armes, et d'ailleurs enfin t'en parles aussi là, le fait qu'il y a des flashballs qui sont arrivés je crois dans les coursives dans plusieurs tôles, et donc en fait c'est des revendications auxquelles le gouvernement a accédé hyper facilement, on en a pas mal parlé à cette antenne, en fait ils ont à peine eu à faire une fausse journée de blocage de prison et tout de suite toutes ces revendications genre hyper trash de avoir plus d'armes, elles ont été accordées. Ça va aussi avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'ambiance un peu sécuritaire du moment où on sait que les gens qui vont devoir tenir ceux qu'on va enfermer ou la police ou les matons, on va leur lâcher tout ce qu'ils demandent parce qu'on sait qu'on va avoir besoin d'eux pour tenir les gens bien droit quoi.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, au lieu de chercher à trouver des solutions en interne avec les prisonniers, avoir, par exemple, leur donner des droits consultation, par exemple, d'un psy, ou tout simplement déjà éviter toutes ces prisons dans la prison. Quand je parle du mitard, là, ils subissent vraiment des violences psychologiques au quotidien, surtout quand on est enfermé dans l'enfermement en plus. Et donc l'État n'entend pas du tout leur douleur et leur revendication. Et au lieu de ça, ils font comme à l'extérieur avec les violences policières. Ils préfèrent faire un déni, fermer les yeux et donner encore plus de moyens pour encore plus donner plus de répression, comme vous dites. Hein, et c'est vraiment inadmissible. Et du coup, l'État viole constamment les droits de l'homme, bien qu'il soit condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Eh ben, on continue encore à donner plus de moyens pour faire plus de répression. Et... Donc c'est pour ça que c'est très bien de pouvoir entendre les témoignages de ces gens incarcérés, des familles aussi. Et il faut qu'il y en ait de plus en plus pour qu'on puisse dénoncer plus.
Grave. Bah, en vrai, ça va rebondir sur pas mal, enfin sur une lettre là et tout, et puis on en rediscutera aussi sur le fait de, enfin on en avait discuté au téléphone pour préparer l'émission, mais le fait d'avoir des condamnations à la Cour européenne des droits de l'homme, ça fait que bah, c'est la France qui est condamnée, mais tout pas les prisonniers en tant que tels et pas l'institution policière. Et voilà. Alex, toi, t'avais un petit truc à rajouter sur cette lettre ?
Ouais, moi je voulais dire déjà, donc il écrit depuis le CNE. Peut-être faut juste rappeler ce que c'est le CNE, parce que ça va arriver dans une autre lettre. Le CNE, en fait, c'est les centres nationaux d'évaluation. Il y en a trois ou quatre. Il y en a un à Fresnes, un à Réau, justement là dans le sud de l'Île-de-France, un à Lille-Lesquin, Lille-Séquedin, pardon, et un à Lex-Lune. Et en fait, en gros, c'est des lieux où les gens ils sont évalués pendant six semaines et où l'administration pénitentiaire, sur ce qui va se passer pendant ces six semaines, va juger de carrer le niveau de dangerosité, en tout cas l'étiquette qu'on va mettre sur le ou la prisonnière, quoi. Et du coup, c'est des trucs qui sont hyper, hyper vénères, parce que ça veut dire que pendant six semaines, c'est vraiment sous la loupe de l'administration pénitentiaire, tout ce qui s'est passé avant bah, va rentrer en compte, quoi. Mais la moindre merde qui va se passer pendant ces six semaines, bah, tu peux le payer cher après dans les transferts et dans ce qui va suivre, quoi. Mais en même temps, c'est une étape obligatoire pour plein de gens qui sont dans les longues peines, pour espérer tomber dans une centrale qui soit moins sécuritaire, et en tout cas qu'on arrête de les désigner comme hyper dangereux, pour espérer avoir un jour un aménagement, ou en tout cas que les dingueries de l'administration pénitentiaire s'arrêtent un peu, quoi. Et du coup, c'est un vrai piège, et c'est cool qu'il y ait des gens qui nous écrivent de là-bas, quoi. Plein de force à eux deux. Et moi, je voulais juste dire aussi, c'est cool, en fait, ces témoignages, là où on parle de ce qui se passe en centre de rétention, où il y a des prisonniers de différents lieux d'enfermement, en fait, qui se répondent. Je pense que c'est hyper important. Et il y a l'infâme aussi qui fait souvent ça dans ses lettres, en fait, de parler des étrangers, des personnes qui sont enfermées parce qu'elles sont étrangères, etc. Et enfin voilà, c'est aussi un des buts de notre émission, quoi. Et donc ça fait vraiment plaisir, quoi.
Voilà. Grave. Et puis il y a un moment dans cette lettre où Youssef, tu parlais de cette peine de mort qui est pas abolie. On en a pas mal parlé la semaine dernière, on en avait aussi parlé les semaines précédentes, mais donc pour rappel, il y a ce bouquin qui est gratuit pour vous à l'intérieur, donc n'hésitez pas à le demander. Youssef, c'est sûr qu'on va te l'envoyer quand tu seras arrivé en centrale ou en CD. Voilà, mais donc en tout cas n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, ça s'appelle La peine de mort n'a jamais été abolie. Et d'y écrit de prisonnier, c'est les copains des éditions du bout de la ville avec qui, donc la maison d'édition qui a fait ça. Et donc n'hésitez pas à nous écrire pour nous demander à l'intérieur pour qu'on vous les envoie. Et à la fin de l'émission, on vous fera un peu le topo parce que la semaine prochaine, on va présenter ce bouquin dans un peu partout sur Paris. Donc réservez vos soirées pour venir discuter avec nous. Et puis juste pour finir.
Et déjà ce week-end.
Et déjà ce week-end, ouais, à Rennes. Ce week-end à Rennes.
L'agenda, quoi.
On en parlera. Comment ?
Ouais, non, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Ouais. Là, juste avant. Donc, le bouquin. Il y a une émission la semaine dernière qui a été faite, qui est disponible sur les plateformes, sur notre site, où il y a une présentation un peu en longueur du bouquin, quoi. Mmh. Et ne faut pas hésiter à retourner pour ceux qui ont internet pour aller l'écouter.
Et puis pour terminer, Sylvia, faut que tu reviennes parce que les gens ils se rappellent même pas de ton prénom, donc donc voilà. Donc on va passer par une lettre de quelqu'un qui est actuellement au CNE, mais qui nous a écrit juste avant d'y aller. Voilà. Bonjour l'équipe, Joël S K A P etc. Je vous envoie ce courrier pour vous informer que cela fait 18 ans que je suis en détention. Plus de 61 mois de RPO et les RPS. Donc, c'est les remises de peine. Donc, une très grosse peine déjà bien exécutée. Je suis transféré pour faire mon CNE, Centre National d'Évaluation dans la région parisienne. Alors S, tu vas avoir de mes news, j'espère. J'avais déposé depuis un an mon aménagement de peine. Il a fallu un an pour avoir les expertises qui étaient correctes pour moi. Je suis sorti en perme 3 jours au Calanque à Marseille, accompagné le 23 juin 2021 et le 24 juillet 2021. J'ai passé une journée de permission sur Marseille avec mes trois grands garçons et ma belle-fille. Mon fils avait 2 ans et quelques mois quand je suis rentré. Et le 24 juillet, lui, il a eu 20 ans, le 1er août 2021. Ma fille, qui va avoir 18 ans le 22 novembre 21, avait pas 1 an quand je suis rentré. Elle avait 7 mois. Elle va avoir 18 ans. Voilà, je me suis presque tapé ma peine entière. Alors la réinsertion, il faudra qu'ils me disent où ils la voient. Et comment c'est possible de faire 18 ans de tôle avec 61 mois de retiré sur 30 ans et avec des RPS chaque année. J'espère et je prie de ne plus voir ces barreaux, ces barbelés et cet enfermement interminable. Tous me demandent comment j'ai tenu. Ça, c'est un gag. Quand j'entends qu'en juillet 2020, le professeur qui avait pris 6 mois pour avoir crevé des pneus s'est suicidé, alors que nous étions, nous deux, ensemble aux urgences de l'hôpital. Il avait cogné sa tête dans sa rébellion et moi, attaché au barreau de mon lit, je lui disais « Monsieur, regardez, vous voyez cette femme, elle a 17 ans de détention, plein. Et elle, elle a fait une TS au QD où j'ai pris 20 jours de quartier disciplinaire pour avoir cassé la figure à une détenue qui avait pris le numéro de ma fille de 16 ans. Mais voilà, les permissions, un bon comportement qui, je l'espère, le restera. 2 permissions et enfin le CNE, une nouvelle fenêtre pour pouvoir voir la lumière de l'extérieur. Vous savez, le lundi 7 septembre 2021, nous avons eu un homme au quartier Homme qui s'est pendu, donc au Baumettes à Marseille. Encore une personne décédée ici depuis que j'y suis, depuis mai 2019. Il y a eu Katia, puis ce professeur pour 6 mois à cause des pneus. Et un autre, et là aujourd'hui, lundi, une autre pendaison. Comment ça se fait que personne n'en a parlé ? Encore, pourtant, c'est important de faire savoir que des personnes pour des peines, ont des peines qu'ils ne supportent pas. Et les experts et la surveillance médicale et ceux qui les surveillent, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a toujours des choses que l'on ne voit pas. C'est pas possible de ne pas parler de cela. Il faut appeler la radio qu'il y a au Baumettes et dire quelques mots pour cet homme qui nous a quittés dans ces bas-lieux. Il y en a tellement que j'ai vu en 18 ans que je reste encore choqué quand cela arrive. Et il n'y a rien non plus dans le journal, rien aux infos régionales, ni un mot pour lui, non. Chaque personne qui nous quitte mérite un lieu de prière, de pensée. Oui, nous sommes que de passage. Oui, ils ont le droit à un certain pourcentage de décès dans les prisons. Mais ce n'est pas un mouroir que je sache. Voilà. Que Dieu prenne bien soin de lui, une pensée, ça coûte rien. Mais là aussi, avec tous les décès sur Marseille, ils font un tapage et le président qui se déplace. Des décès dans les prisons, ça ne les intéresse pas, ils informent, ils n'en parlent pas. Trop, c'est trop. Vraiment, il est temps que je sorte, c'est vraiment grave. La dignité en détention, nous devons la garder, ça c'est clair et net. Il n'y a pas de raison de la perdre. Il y a la ronde toutes les minutes. Il me reste demain matin pour travailler, lundi matin, après Bonjour Paname, le CNE. Mille merci à vous tous, on ne peut pas mourir perdu comme cela. Nous ne sommes déjà que de passage en plus, on ne va pas nous écourter nos vies encore et encore. Je voulais vous le faire savoir, car il ne se passe pas un mois où il n'y a pas quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme cela, oui, mais je ne me résigne pas pour autant, vivement les semaines qui passent vite. Sache que je vous écris dès que je suis au CNE, à la tôle, où je vais être. Porte-toi bien, passe à travers les maladies sulfureuses et les calaches à Marseille. Je vous tiens informé. Si je n'ai pas écrit, c'est que je n'avais pas de timbre. Quand j'en ai, je vous écris à tous. À bientôt, au plaisir de vous lire. Prenez soin de vous. Une grosse bise pour tout le monde. Bah écoute, merci beaucoup et tout ça. En effet, on n'avait absolument pas entendu... parler de ces décès au Baumettes chez les hommes. C'est clair qu'ils ont fait un beau tapage médiatique sur le fait qu'ils reconstruisaient une nouvelle prison, qu'elle allait être toute propre et tout ça. Mais ils ont, et je mets des énormes guillemets pour dire ça, oublié de parler de cette mort. Parce que comme tu le dis si bien, ça intéresse pas. Voilà, donc écoute, on t'a répondu, voilà, et tu vas nous en dire plus, et puis on va essayer un peu de se renseigner, voilà, et de pouvoir en parler plus que seulement ce qu'on en fait là, qui est juste témoigner, enfin voilà.
Ouais, mais après, parce qu'elle en parle et aussi Youssef en parlait avant, c'est quand même un vrai truc dont. Nous, on essaie de se faire le relais, mais les morts en prison, c'est complètement invisible. C'est des gens qui n'existent pas. Et d'ailleurs, c'est pas pour parler du journal, mais le journal s'est fait censurer sur un dossier mort en prison. Donc, non seulement on n'en parle pas, mais on sait très bien qu'il y a des gens qui veulent pas qu'on en parle, et donc qui évitent même. Enfin, on en parle à chaque fois qu'il y a des histoires où les familles essayent de se battre pour faire sortir. La vérité de ce qui s'est passé à l'intérieur. On sait que c'est en plus un truc qui est volontairement mis sous cloche. Même pas. Enfin, juste des gens qui passeraient dans l'anonymat, on va dire.
C'est clair. On va peut-être mettre un petit coup de zik et puis on va continuer avec les lettres un peu. A tout de suite.
Ouais, attends. Yeah. Y'all bogus. Real goofy. I ain't never lost focus. Nah. Y'all bogus. Yeah. The dark flesh, Bob Moss, speak mine. What she thought them 99 problems was, war on drugs, legality. They got us on fallacies, resorted in casualties. I was supposed to resort in the Maldives now. We in the rallies now, boxing in IG now. Boxing like Ali in the memory, pouring Hennessy and bamboo shot, reaching for the ID. Get off my neck, nigga, let your Cuban link. I think like the Cubans think, you'll never get a side of back. Got your back, T. Mallory. Carry on like a Prada bag. The dogs with me like they caught a lab in the backseat of a patrol car. That's luck, they ain't called a coroner. Should be Hall of Fame, corridor. The way we run it back. You think it's 63? I'm thinking 63. 180 degrees, get your shit straight, Mr. Police. Did the same thing. The co-chiefs did the same thing. The Raheem do the same thing in our reality. Y'all got 99 problems, and 12 still the biggest. I got 99 problems, but time bullets triggers. I got 99 problems, 12 still the biggest. I got 99 problems, yeah. But time bullets triggers. Death come in threes every month, March 33, nip, got a heavy heart. It's killing Jay, I don't get that part. Cops kill awfully, no remorse. I don't wanna hear arguments no more about black on black, white on white, kill their own two. And cops the only ones who ain't accountable. Black men in jail for an ounce or two. For us it's punishable. We got the weed business, the weed white business. Men making buku in Timbuktu. Hope they praying at the mosque for us.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. C'est l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30, est rediffusée chez plein de radios copains et copines que vous retrouverez sur les émissions, sur notre site internet et tout. Je ne vais pas vous faire la liste là, mais en tout cas à Brest, ces derniers temps, ça s'est rajouté et tout. Donc voilà, pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10. Donc voilà, mais pour l'instant, il y a Alex qui est au téléphone. Et sinon, pour le numéro de téléphone, c'est le 07 52 40 22 48. Et pour nous écrire, c'est au 1, donc l'envolée-FPP, 1 rue de la Solidarité, 75 019, Paris. Et donc juste, en fait, on voulait quand même rajouter 2-3 trucs.
Ouais, parce que là, en fait, on vient de lire donc, la lettre d'une poteau, donc, comme on disait, qui vient d'être transférée au CNE à Fresnes. Et d'ailleurs, du coup, il y a Karim qui te fait un gros coucou. J'espère que tu nous entends. Et on sait, en fait, on sait que du coup, ça s'est pas très bien passé l'arrivée, que au moins, en tout cas, jusqu'à il y a 3 jours, pendant 8 jours, elle a pas pu avoir accès à son pécule, et donc elle avait accès à rien. Elle pouvait pas envoyer de courrier, elle pouvait pas cantiner de timbre, de papier. Enfin voilà, elle a strictement rien eu. On sait pas où ça en est maintenant, mais il y a quelques jours c'était encore là, et donc il faudrait vraiment que, en fait, cette situation s'arrête, parce que, enfin, c'est pas normal. Et donc voilà, on voulait juste dire, si jamais aussi les gens de la zone nous écoutent, que nous on est au courant, et que du coup on va essayer de leur mettre la pression pour que assez vite comme ça puisse évoluer.
Et Alex, tu voulais rajouter aussi un truc sur l'importance que ça soit à l'intérieur. Enfin voilà, c'est comme d'habitude, c'est les prisonniers à l'intérieur.
Bah ouais, t'as tout dit. En gros, le truc, c'est ce qu'on dit à chaque numéro. C'est, en fait, si on parle des morts à l'intérieur, c'est parce qu'il y a des prisonniers pour le faire, quoi. Ou des prisonnières. Et qu'encore une fois, c'est quelqu'un de la tôle qui va en parler. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Jimony. Et c'est la même chose, en fait. C'est toujours soit des proches, soit des prisonniers ou des prisonnières qui vont en parler. Et c'est s'il y a un mouvement de la part de ces gens-là que en fait il y aura peut-être un écho médiatique ou que l'info elle va tourner un peu quoi.
Bah oui, oui, grave. C'est que grâce à la parole des proches et de l'intérieur qui voilà. On se dit qu'il y avait encore deux grosses lettres, tout ça, mais on a encore un programme chargé, donc on lira les lettres de Kémy et puis Libreflow. Voilà, donc en tout cas, si vous nous entendez, merci et gros big up à vous de nous avoir écrit. Et,
ouais, mais on veut prendre le temps voilà, de pouvoir les lire bien pour, et les discuter.
Et pouvoir prendre le temps de discuter et tout. Voilà, parce que là, on a du monde en studio et tout. Et,
on comprend ça
et
plutôt,
tout. Ouais. Mais voilà, mais en tout cas, Cimer, et puis voilà, on lit la semaine prochaine sans faute.
Moi, je vais en profiter pour vous laisser.
Ouais, et bah Cimer, et puis peut-être si tu veux nous parler de Rennes demain. Enfin, ouais, demain et après-demain.
Ouais, bah je. En gros, demain et après-demain, demain, il y a une discussion avec l'envolée à Rennes, au parc des Berry à 14h30. Et l'idée, ça va être de revenir à la fois un peu sur ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire la répression du milieu militant sur les questions terroristes, avec l'affaire du 8 décembre récemment, mais aussi de parler un peu de ce qui s'est passé avant tout ça et ce qui continue sur la répression des étrangers, qu'est-ce qu'on est en train de tester avec tout un tas de gens, et après d'élargir bah, à tout le monde dehors, quoi, donc aux militants comme aux gens en général. Et le dimanche, il y aura une présentation du bouquin et du dernier numéro. Et donc, ce sera à partir de 11h30 et on vous redonnera lieu à la fin de l'émission.
Cimer. Et bah à toutes. Ciao, Alex.
Bonne chance à vous. Ciao.
Et bah, recoucou. Adja et Tierno, voilà, ça fait plaisir de vous avoir dans ces studios parce que voilà, on s'est vu à Nantes, voilà pour un atelier qu'on avait animé qui s'appelait bah voilà à quand la fin de la peine de mort, voilà. Vous venez nous voir pour parler de la lutte que vous menez pour obtenir de la vérité, la justice. On y reviendra et en particulier à minima les vidéos de ce qui s'est passé et donc de votre petit frère Ibo. Peut-être est-ce que donc déjà pour commencer, mercredi, va y avoir une plaque qui va être mise. Voilà, à l'adresse, ça sera où pour s'il y a des gens qui veulent venir et tout ça.
Ce sera rue Federbe à Villers-le-Bel.
Voilà, et après, il y a une marche samedi.
19 octobre. À 13h à Sarcelles.
Donc voilà, c'est important que les gens viennent. Voilà, les gens qui sont à l'extérieur, bien sûr, mais voilà, viennent soutenir. De toute façon, on le redira à la fin, mais c'est ouais. Comme ça rentre bien dans le cerveau des gens qui écoutent. Déjà, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce qui s'est passé si, voilà, je sais que c'est toujours des moments durs, mais que les gens y puissent comprendre. Et puis après, on parlera de la lutte et tout ça.
Absolument. Bah, déjà, tout d'abord, merci pour l'invitation et pouvoir nous donner encore la possibilité de communiquer sur cette affaire. Donc, je suis Adja, la grande sœur d'Ibrahim Abba, plus connue sous le surnom Ibo. Mon petit frère circulait à moto à Villers-le-Bel, la rue Federbe, d'ailleurs, qui n'est pas très loin de là où avait été pare-choqué l'armée Mouchine, à 400 mètres à peu près. Il circulait à moto donc, le 6 octobre 2019 à Villers-le-Bel. Et dans la rue Federbe, il y avait des policiers qui étaient déjà sur place pour un refus d'obtempérer. Donc, ils étaient déjà sur une opération. Donc, lui ne faisait que passer. Juste une petite précision avant, c'est que voilà, mon petit frère n'avait que 22 ans. C'était un passionné de moto. Il avait obtenu donc, un permis moto et il connaissait très bien la moto. Il maîtrisait vraiment sa moto. D'après les témoins les témoignages de ses amis. Juste avant de monter sur sa moto, il a fait un snap, voilà, en disant, voilà, on va pas me reprocher de pas avoir mis de casque. Enfin voilà, il s'est préparé, il a mis son casque, ses gants, il était tout content de pouvoir faire de la moto, puisque c'était bien plus qu'une passion, mais un moment d'échappatoire, parce que on avait perdu un frère 5 mois et demi avant, et les deux étaient très très très, mais vraiment très proches. Donc pour lui, faire de la moto, ça lui rappelait ce frère qui lui avait d'ailleurs communiqué cette passion et qu'il avait inscrit d'ailleurs au permis moto dès qu'il était en âge de le faire, et qui lui a offert d'ailleurs sa première moto. Donc ce frère en question avait une entreprise de logistique et transport, et avait la possibilité de souvent prêter un camion à Ibo, de façon à ce que lui et ses amis puissent mettre leur moto dans le camion et ensuite arriver sur les lieux, enfin un champ pas loin de Villers-le-Bel, pour pouvoir pratiquer leur passion sans risque pour eux et pour les autres. Malheureusement, ce jour-là, le camion était en panne, et bon, bah après la passion a été plus forte, hein, l'appel à la moto, voilà, il pouvait pas s'en empêcher. Il s'est dit bon, bah en plus entre Villers-le-Bel et Sarcelles, bon, il y en a même pas pour 10 minutes à moto. Donc voilà, et il y est allé, et arrivé dans cette rue, les policiers qui le voient arriver, enfin il y a plusieurs policiers déjà dans la rue, 4 policiers dans une fourgonnette qui l'entendent arriver et le voient arriver, qui décident de déplacer leur fourgonnette de façon à lui barrer la route. Je reviendrai après sur les témoignages de certains. Mais dans la façon dont ils lui ont barré la route, ils n'ont laissé aucune chance, parce que, comme je l'ai expliqué au départ, mon frère maîtrisait vraiment sa moto, et donc ils lui ont vraiment laissé aucune chance. Le choc était mortel et presque immédiatement. Voilà, et donc sur ce lieu, il y avait 3 caméras de vidéosurveillance. C'est pour ça qu'à chaque fois, on parle des vidéos, on veut des vidéos, on veut des vidéos. Et aujourd'hui, près de 2 ans, donc le 6 octobre bientôt, ça fera 2 ans, nous n'avons pas eu accès à aucune de ces vidéos. En dehors des vidéos, il y avait aussi les témoignages de plusieurs personnes qui étaient dans la rue ou à leur fenêtre, puisque c'était un dimanche après-midi, donc aux alentours de 16h30, 17h. Donc il y avait vraiment beaucoup de témoins visuels. Malgré tout, les témoins n'ont pas été entendus, les policiers n'ont pas été auditionnés, la fourgonnette en question n'a pas été expertisée dans les premières heures, alors qu'on a porté plainte dès le lundi, le lendemain. La fourgonnette a continué à circuler 48 heures après. Mmh. Donc, lorsque les experts font une pseudo-expertise, ils ne peuvent pas dire clairement si les dégâts qui sont sur la fourgonnette sont dus au choc entre la moto et la fourgonnette. Or, on voit très clairement, enfin, d'après ce qu'ils disent en tout cas, qu'il y a des traces de choc sur la fourgonnette, et juste au niveau conducteur, ce qui correspondrait à l'impact entre déjà la moto, la jambe de mon frère et le côté conducteur de la fourgonnette. Aujourd'hui, on nous dit qu'une seule des 3 vidéos est exploitable, qui nous laisse juger par nous-mêmes déjà, ouais, dans un premier temps. La seule qui serait exploitable a été montrée à notre avocat. Enfin, il a pu la voir 1 an après les faits seulement. Mmh. Et il a pu la visionner uniquement devant le juge d'instruction. Mais on lui a pas remis la vidéo de façon à ce qu'il puisse, dans un premier temps, nous la montrer, nous, la famille qui avons porté plainte, et nous sommes constitués quand même partie civile. Et d'autre part, il n'a pas la possibilité non plus de l'expertiser pour voir si la vidéo n'a pas été troquer s'il n'y a pas eu des images qui ont été supprimées, puisqu'il s'agit justement d'une caméra rotative. Mmh. Ça veut dire qu'on n'a pas l'image en continu de la scène. Donc il est possible effectivement que certaines images, en tout cas l'image du choc, aient été délibérément supprimées. Mais comment le savoir si on n'a pas la vidéo pour pouvoir l'expertiser?
Juste une petite précision. Il faut préciser que le lendemain du drame, à la marche qu'on a faite, le maire de Villers-le-Bel a pris la parole et a bien précisé que ses caméras vidéo, les caméras de sa rue, étaient bien en état de fonctionnement.
Ouais, et donc aujourd'hui, elles disent qu'ils sont inexploitables, mais en fait, dans la pratique, elles étaient là, elles fonctionnaient. Et donc. Et c'est tout le truc, parce qu'en fait, ils ont utilisé un truc juridique un peu bâtard en disant que c'est sous-scellé.
Ça.
Voilà.
Exactement.
Et qui permet, en fait, à chaque fois, au juge et aux policiers, de cacher ce qu'il y a dedans aux personnes et aussi parfois aux inculpés. Pendant le procès des révoltes de Beaumont, il y a eu une caméra où en fait ils décrivaient ce qu'il y avait dans le scellé, dans la vidéo, ouais, en disant il y a 7 coups de feu je crois et tout ça. Mmh. Et au moment du procès, cette vidéo a été montrée, puisque c'est le moment où on a le droit d'ouvrir les scellés. Mmh. On a vu la vidéo, en fait il y avait que 3 coups de feu. Et il n'y avait rien du tout. Mmh. Et ça, c'est vraiment un outil qu'utilise la justice très souvent pour cacher des choses aux gens. Et c'est vraiment un outil très fort pour eux, quoi.
Ouais. Et surtout aussi, ce que les gens ne savent pas, ou ce qu'on ne sait pas, c'est que quand ils disent, qu'ils ont été scellés, mais avant ça, ils sont passés de main à main. C'est-à-dire que ces vidéos, ils ont été visionnés par... la police de Sarcelles, puisque c'est la centrale, c'est là-bas en fait. Donc les policiers de Sarcelles, voire de Villers-le-Bel, ont pu visionner ces caméras, qui ont été passées à la sûreté départementale. La sûreté départementale les a visionnées, les aurait après passées bien sûr à l'IGPN.
Puis après derrière, ils peuvent aussi se mettre d'accord sur une version.
Exactement.
Mais oui.
Exactement.
Donc c'est un tour de passe-passe.
Donc voilà, comment des éléments de preuve aussi importants et déterminants dans l'affaire peuvent être trimballés d'une main à l'autre déjà, dans un certain temps. Et dissimulé. Je parle, par exemple, là, quand on parle de l'actualité, je parle en parlant de l'affaire Benalla, par exemple. Mmh. Tout le monde a vu la scène en 2018 où il tabasse ce couple à marge d'une manifestation. Et pourtant, les policiers, ils vont eux-mêmes lui remettre...
Ouais.
Ils vont lui remettre la vidéo de la scène où il tabasse des jeunes. Alors que c'est lui, quand même, qui est suspecté de violence. Illégitime et comme s'il y avait des violences légitimes, mais bon, c'est l'État qui dit qu'il y a des violences légitimes quand on parle des forces de l'ordre. Mais lui, dans ces cas-là, il ne fait pas partie des forces de l'ordre. Il va porter un masque, se mettre, se munir d'armes de forces de l'ordre pour se dire, voilà, je suis dans le corps d'un force de l'ordre et donc je me donne le droit de tabasser gratuitement et comment on peut lui donner des éléments de preuve pareils. Et c'est juste...
Mais comme ça, c'est vraiment ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment une pratique autour de ces vidéos dans ces institutions. Eux, ils savent quel outil c'est, ils savent comment les utiliser. Le fait qu'ils aillent le passer comme ça aussi tranquillement au mec qui a commis les violences, c'est qu'ils savent que c'est une des pièces importantes et qu'il faut la garder entre nous, qu'il faut que ce soit gardé jusqu'au dernier moment, de portée des personnes qui se sont fait taper.
Et c'est tout le problème de manière générale sur ces vidéos. En fait, la question, c'est pas la vidéo ou pas. La question, c'est entre quelles mains est la vidéo. Et donc, quand ils veulent... ce qui n'est pas passé, mais la loi d'interdiction de filmer, c'est ça. C'est qu'en fait, eux, ils continuent à te filmer. Ça, oui, là-dessus, il n'y a pas de souci. Oui. Eux, on leur renforce, on leur refile des caméras piétons. Eux, il n'y a personne. Normalement, c'est illégal qu'eux te filment avec... leur téléphone portable et tout, ce qui arrive super régulièrement. eux, ils le font. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qui possède la vidéo. Et donc, eux, s'ils possèdent les vidéos, ça va, on peut filmer autant que vous voulez. Si c'est d'autres personnes qui possèdent les vidéos, là, il y a un problème. Mmh. Et voilà. Mais parce que c'est là où ils peuvent être mis en danger.
Oui. Et là où ça fait encore plus mal, c'est qu'on voit des affaires... Où on a eu accès aux vidéos. C'est, enfin, après, ce n'est pas des vidéos, des caméras vidéosurveillance de la ville. Je parle par exemple de l'affaire Zecler ou même de Cédric Chouvia. Il a filmé lui-même sa propre mort. On a eu accès à certaines images, mais même en ayant accès aux images, en fait, ça ne nous permet pas d'accéder à la justice. Mmh. C'est juste en fait un moyen pour nous, au moins, de démontrer la vérité sur les faits. Mmh. C'est déjà un grand pas pour nous de pouvoir le démontrer. Et ça permet aussi de montrer aux yeux de tous à quel point l'État peut faire un déni total malgré des preuves irréfutables, en fait. C'est juste hallucinant.
Il y a deux termes. Le combat vérité et justice. Il y a aussi ce truc de faire émerger la vérité. Et on sait très bien que faire émerger la vérité, avec laquelle tout le monde est d'accord, enfin, je veux dire, il y a un moment, tu vois, les choses, on ne peut pas les contester, voilà. Mm. Ça ne veut pas dire que derrière, il y aura justice. Parce que la justice, on sait qu'elle est là. Elle est là pour protéger les agents de l'État. Voilà. Et donc, à chaque fois, on se retrouve à faire des combats fous. Je pense à Fatou et Ramata pour le meurtre de Lamine. Mmh. Où c'est 11 ans de procédure, 11 ou 13 ans, ouais, voilà, 13 ans. Ça me semble tellement démesuré que j'en oublie. J'étais même pas majeur à cet âge-là. Ça me semble fou. Mais 13 ans de procédure, Et au final,
c'est pas la France qui condamne, les policiers.
C'est ça.
Voilà, c'est la France qui est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, comme on en parlait tout à l'heure. Et c'est ce qu'ils font systématiquement, c'est donner des non-lieux à chaque affaire systématiquement. Déjà parce que pour décourager les familles. Parce que c'est un épuisement quand même physique, moral et financier. Derrière, il faut tenir non-lieu sur non-lieu et continuer jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Ça peut durer des années, comme on le voit justement avec cette affaire de Lamine. Et au final, on obtient quoi ? La condamnation de l'État et pas la condamnation des policiers, des forces de l'ordre dans l'ensemble, qui continuent à exercer sans inquiétude. Et il serait grand temps qu'en France... je ne sais pas si j'appelle ça un courage, mais en tout cas qu'on commence à punir tout simplement ces actes, puisque en tant que civils, lorsqu'on commet un acte criminel ou de violence, on est puni, on a des amendes, on va en prison. Et pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit de forces de l'ordre, c'est pas le même cas? Là aujourd'hui, en fait, pour en revenir sur la vidéo, lorsque notre avocat, enfin, d'après ce qu'il nous dit sur ce qu'il a vu sur la vidéo, je pense que c'est peut-être ça qui a dû freiner et que derrière on nous a pas fait voir la vidéo puisque ils espéraient peut-être qu'ils ne voient pas la culpabilité des policiers puisqu'il s'agissait d'une caméra rotative. Lui, ce qu'il a constaté, c'est que dès le départ, il voit le positionnement de la fourgonnette et à la fin, il voit que la fourgonnette n'a changé de place. Ça contredit les témoignages de certains
policiers.
Certains policiers. Je cite un des policiers qui dit... il précise que le véhicule n'a fait aucun mouvement entre le moment où il demande au chauffeur de s'arrêter, d'après ce qu'il dit. Hein. Mmh. Alors qu'un autre dit, il semble que le chauffeur du fourgon a pilé au moment où la moto arrivait. Voilà. Donc, et derrière, on a un témoin visuel, un passant, parmi d'autres, qui dit que le fourgon de police se déporte très rapidement, quasi à la perpendiculaire vers le trottoir. La roue du fourgon touche le trottoir. Alors, quand on a des agents de police qui disent que non, le fourgon n'a pas bougé. Ouais. D'autres qui disent, bah non, au contraire, il a pilé. Et un civil, voilà, qui dit, bah non, la fourgonnette a effectivement bougé. Et dans la vidéo, effectivement, lui, rien qu'en voyant la fourgonnette, effectivement, a changé de position, ça contredit donc certains témoignages. Pour lui, leur culpabilité est tout simplement indéniable, en fait.
Ouais.
Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que c'est ça qui les a freinés tout de suite en se disant « Ah ben non, si on montre ça à la famille, leur montre justement la culpabilité. » Donc, quelque part, on se dit que ça fait 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que la vérité y est. C'est pour ça qu'on n'a toujours pas accès au moins à une des 3 vidéos.
Et pour l'instant, est-ce qu'il y a des policiers qui sont mis en examen ?
Non, pas du tout.
Ils ont même pas été auditionnés encore. Ils n'ont pas été encore auditionnés.
Il n'y a eu aucune audition. C'est vraiment incroyable parce que pour un simple accident de la route, on sait que ce n'est pas ça.
Non, ils ont fait un compte rendu, si vous voulez.
Oui, mais ils n'ont pas été auditionnés devant le juge.
Voilà, ils n'ont pas été auditionnés devant le juge. Mais ils ont fait un compte rendu de ce qui s'est passé.
Et donc c'est suffisant. Alors qu'en fait, pour avoir le compte rendu, pour faire le compte rendu, ils avaient accès à la caméra de vidéosurveillance. Enfin, ils avaient accès à un certain nombre de trucs. Enfin, voilà. Il y a un moment, c'est pas possible. Enfin, c'est quand même incroyable. Voilà.
C'est tellement incroyable que ils se sont permis de déplacer la moto.
Oui. Et cette scène a été filmée d'ailleurs par en passant. On la voit sur YouTube aujourd'hui. Hein.
Ils ont déplacé la moto, le fourgon.
Ouais.
Ça c'est pour déguiser la scène. Donc
ils ont à aucun moment marqué la scène, comme il peut y avoir deux fois dans des accidents où on marque la scène, on prend des photos et on touche à rien.
Bah oui.
Par contre, ils ont scellé aussitôt la moto de mon frère, mais ils n'ont pas scellé la fourgonnette.
Mais ça,
normalement, les deux véhicules qui sont impliqués dans un accident, on les scelle tous les deux, sinon c'est.
Et ça, c'était la même chose avec Zineb Redouane à Marseille, où ils n'ont pas scellé le lanceur de grenade qui l'a visé sur l'argument qu'ils en avaient besoin. Enfin, je veux dire, on est sur un niveau de délire qui est total, quoi. Je veux dire, c'est...
Ouais, mais en fait, ça revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que
c'est pas du délire, en fait.
C'est pour ça que ça met des années à lutter pour la vérité, alors que comme on dit, la vérité, nous, on la sait tous, il y a plein de gens qui l'ont vue, mais eux, en fait, dans les premiers jours, les premières heures, ils mettent en place tout un tas de trucs qui vont t'empêcher d'établir cette vérité, en tout cas sur un plan, on va dire, médiatique ou juridique, avec tous ces petits trucs-là qu'on décrit depuis tout à l'heure.
Oui, et pour aller dans ton sens, justement... Il y a le préfet qui a fait un communiqué pour mettre le doute dans la tête des gens, des personnes, que Ibrahim Abba aurait volé cette moto. Comment peut-il se permettre de faire une déclaration à 24 heures après ? Ou je crois que le lendemain. Le lendemain,
24 heures. Dès le lundi matin. Et même quand tu vois une moto arriver, tu vois tout de suite c'est une moto volée et quand même elle aurait été volée. Ça justifie qu'on le tue.
Oui. La première des choses, c'est de penser à la famille déjà. C'est de penser à la famille et de dire qu'il y a une enquête qui va être ouverte pour savoir ce qu'il en est. Mais on ne peut pas de suite déclarer que la moto serait volée. Là, on voit tout de suite, ils veulent déplacer le problème.
C'est le même procédé à chaque affaire. Ils salissent la victime, ils le criminalisent pour justifier leurs actes criminels. Comme pour dire, de toute façon, c'est qu'un petit voyou, un voyou de moins, Mais un voyou, d'accord, mais s'il y a des voyous, il y a des peines, il y a des sanctions. Et les voyous au sein des forces de l'ordre, qu'est-ce qu'on en fait ?
Mais c'est ça le truc qui est le plus ouf, c'est que eux, quand bien même, ils seraient ça serait des voyous.
C'est ça.
En quoi ça donne le droit de les tuer ?
C'est ça.
En fait, non, il n'y a pas. Et c'est un vrai truc qu'il y a de la part. Qui est normal, en fait, mais voilà. Toutes les familles sont obligées de rétablir la vérité sur les personnes. Nous, ici, à l'envolé, on est là, les voyous, c'est les gens qui nous écrivent des lettres tout le temps. Donc nous, en fait, on s'en fout de ça. Enfin, c'est pas notre problème. En fait, tout le monde doit être respecté par l'État, quoi. Enfin, je veux dire, en fait, en tout cas, c'est pas à l'État de nous dire qui on doit respecter ou pas. Et donc, quand bien même il aurait volé ce truc et tout. Et nous, par ailleurs, sur c'est cool aussi d'avoir la discussion avec vous et tout, c'est que nous, par exemple, on considère que doit y avoir la prison pour personne. Mais par contre, que les flics, ils doivent démissionner, à minima, enfin voilà quoi, et tout, comme de la même manière qu'on considère que les matons, ils doivent tous démissionner. Et que, par contre, c'est aussi l'une des revendications, si mes souvenirs sont bons, qui est faite par le réseau d'entraide Vérité Justice, c'est que tous les policiers ou les forces de l'ordre qui soient soupçonnés de violence ou autre soient directement suspendus.
Au moins le temps de l'enquête, effectivement.
Voilà. Au moins. Et après, derrière, parce que c'est quand même des trucs de fou, enfin, même pour Ahmad, pour Amin Bentoussi, qui a été tué, la personne, elle n'a pas été révoquée de la police, quoi. Enfin, voilà, on est sur des dingueries. Alors, je ne sais plus quels sont les termes précis du truc, mais c'est un truc de ouf de se dire on laisse des meurtriers dans la police et on ne les suspend pas. Moi, j'ai pas envie, enfin, moi personnellement, j'ai pas envie qu'ils aillent en prison. Je m'en fous. Enfin, c'est pas un mot là, mais je peux très bien comprendre que pour d'autres personnes, ça soit le cas. Mais qu'on les laisse être dans cette institution-là, c'est une dinguerie. C'est vraiment.
Mais après, en même temps, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les syndicats de matons, c'est-à-dire que c'est pas juste des gens voilà.
Je dis ça, mais en fait, je sais très bien que tout ça est construit et fait pour protéger les gens, et c'est comme ça qu'ils se protègent. Et
les keufs ont besoin, comme les matons ont besoin de leurs éléments violents pour maintenir, leur pouvoir, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'ils les couvrent aussi, parce que ils fonctionnent là-dessus.
C'est vraiment un truc de ouf, et donc vous avez mené, donc il y a une grosse bataille judiciaire, qui est menée avec votre avocat et il y a aussi toute la lutte que vous menez au sein du réseau d'entraide Vérité Justice. Est-ce que vous voulez un peu nous en parler et
oui,
tout ça?
Oui, effectivement, en début d'année, on va dire.
On va mettre un petit peu de musique, oui, puis on va continuer.
D'accord.
Là-dessus. On va essayer de réveiller, de mettre un petit coup de musique, et puis on va. Parce qu'en fait, on a déjà bien parlé, puis comme ça, on terminera l'émission avec vous là-dessus. À tout de suite.
Yeah. Clips on top of clip spit, get into the grip, we make rounds while you nitpick, hit us in the whip, shit hit like a rib kick, heard you caught your wig sucking on some cryptic, she still chase me cause I'm elusive and cryptic, life full of obstacles, I did not slip, flipped them so hard they don't even know they got flipped, and Beast Delnick got the nerve to pop shit, one phone call make your vinyl not ship, hop skip, you can't see me like Mitch McConnell's top lip. Invested in yard, always been a hot stock tip, but they ain't wanna pay your dog like Jerry Krause or Scott Pitt. Try and play me like some kind of sidekick, them fuckers hate me cause I don't ride dick. Only thing I ride is your bitch, a snare and a kick, something melodic. No trains, car color, Crash Bandicoot, or that weak old banana coupe, all off mechanicals. Keep it amicable, lest we respond like animals. A lot of folks is tyrannical, motherfuckers can't manage their own lives, but wanna try and manage you. Banish you to the pits of hell in a medieval style dungeon con prison. No sunshine provision. My undying vision will not subscribe to nihilism. Got it all off repetition. Rather make new history than to sit here and only make revisions. On that note, I'd like to introduce new religion. True and living, flipping this chicken like blue ribbon. Bird of prey, snap the vertebrae of the stool pigeon. Wouldn't pass him a clam chowder in a soup kitchen. Have my head in the sky like I sing superstition. Don't get me started on cheese and provolone. My steed put mileage on your steeds and styrofoam. Making art deals from Amsterdam to Pakistan. Australia down to Japan and back again. Ready rock, we gon' diddy bop to the safe vault. Can't nobody hold me down just like Puff and Mace taught. My estimate cost case you wanna consult. Can't escape your own thoughts, I'm about effective results. I'm impervious, my native tongue language is murderous. The flow on flames like a Cerberus. Hustle hard, I can barely get a nice rest. They just write checks, mic tests as I mic check. I don't like debt, got me twisted like Keith Sweat. Climbed out of poverty, I calculated each step.
I calculate each step. Crack the Van Allen belts, limit any limitation. I'm highly valued in any valuable situation. That's the lifestyles of a six-ring camp. I let my acorn stack, big dream facts. You get demolished by the six-ring champ.
Vous êtes de retour sur l'envolée, c'est 106.3 dans FP. Oula, je me suis complètement emmêlé les pinceaux, désolé. Vous êtes bien de retour sur Fréquence Paris Pluriel, c'est l'envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. Et c'est sur 106.3 FM et rediffusé par plein de radios un peu partout en France. Encore un grand merci à elle. Pour nous joindre, c'est au 01 40 05 06 10 et en semaine, c'est au 07 52 40 22 48. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris. Et il y a aussi tous les réseaux sociaux, site internet et tout le tintouin, vous avez l'habitude. Donc on va continuer cette petite discussion et tout ça. Donc on parlera tout à l'heure pour terminer bien des deux événements qu'il va y avoir, donc un mercredi à Villiers et samedi à Sarcelles. Et avant, on va continuer un peu. Donc là, on a pas mal parlé de la lutte principalement judiciaire et comment les policiers masquent en fait leur meurtre. Hein, appelons un chat un chat. Avec le réseau d'entraide Vérité et Justice, qui a été constitué officiellement en mars dernier. Et je ne sais pas si tu veux nous le présenter.
En janvier même.
En janvier même, pardon. Oui, c'était la marche en mars.
La marche, oui, effectivement, en mars. Mais officiellement, c'est en janvier, mais ça avait bien commencé à se constituer un petit peu avant, en fin d'année 2020, septembre-octobre. Donc c'est un réseau qui est constitué de familles de victimes, de blessés, mutilés, de familles de victimes. Quand je dis victimes, c'est victimes de violences policières aussi bien en extérieur qu'en violences carcérales, de violences envers les sans-papiers et autres. Donc le réseau est assez élargi. Enfin, en tout cas, ça touche toute personne victime des forces de l'ordre ou du système en général. Et donc nous unissons nos forces, nos moyens, enfin nous pour faire entendre déjà nos voix, pour dénoncer et trouver des solutions ensemble pour améliorer donc pour faire respecter déjà les droits humains. Et donc ça se passe plutôt bien et on est très solidaires. Et d'ailleurs il y a aussi la famille Gimoni là dont vous parliez tout à l'heure qui fait partie de ce réseau. Et on s'organise, il y a des familles qui sont plus calées au niveau juridique, d'autres collectifs qui ont peut-être plus de contacts au niveau des médias ou qui connaissent plus de droits. En tout cas, on unit tous les moyens et pareil pour ce qui est des moyens financiers aussi, puisque vous savez que les procédures sont longues et coûteuses, aussi pour les blessés qu'on oublie souvent, hein, puisque ils ont un peu de mal à trouver leur place entre tout ça. Ils sont pas morts, mais quelque part, ils sont quand même morts parce qu'ils n'ont pas leur vie d'avant. Ils ont des blessures physiques et morales qui font qu'ils ne sont plus les mêmes et ils n'ont plus accès à leur travail. Ou en tout cas, ils sont très fortement perturbés. Et donc, ils ne trouvent pas plus leur place, en tout cas, dans la société. Et en plus, ils payent d'eux-mêmes, de leur poche aussi, comme nous, les familles de victimes tuées, leurs frais médicaux et autres. Et leurs blessures ne sont pas du tout reconnues ni prises en charge. Donc, c'est une des conditions, d'ailleurs, que nous réclamons dans nos différentes revendications. C'est la prise en charge des frais psychologiques, des frais médicaux, des frais judiciaires, et donc la suspension des agents impliqués, au moins le temps de l'enquête. On parlait des mitards et tout à l'heure, pareil. Donc, on a de plus en plus de familles de prisonniers qui nous rejoignent aussi. pour dénoncer donc ce qui se passe aussi dans les prisons et les violations des droits humains. Donc c'est un réseau qui rassemble tous ces combats.
C'est, enfin, je me permets de couper parce que moi je vous ai vu en action quand on s'est rencontré un peu à Nantes, voilà et tout ça. Et il y avait un vrai truc qui était. Enfin, en fait, vous vous appelez réseau d'entraide. Et ce mot entraide, il est pas pour rien quoi. Ah, et c'est, oui. C'était, enfin moi ça m'a vachement ému et touché, enfin et encore maintenant, mais de voir cette solidarité et cette aide, voilà collective, c'est des luttes qui sont dures, c'est des luttes qui sont longues, c'est des luttes qui sont épuisantes, voilà, il y a des gens. Ça fait bientôt 15 ans. Il y a d'autres gens, ça fait parfois quelques mois. Mais je sais pas, on est tous dans le même bateau et on s'aide. Quoi qu'il en coûte, j'aime pas ce terme-là maintenant.
Non, mais c'est ça,
c'est exactement ça. Voilà,
on peut communiquer à toute heure, voilà, on a des groupes, on peut parler de tout sans tabou. On peut parler des problèmes psychologiques, des problèmes financiers. Et si un collectif peut aider un autre. Financièrement ou matériellement pour apporter, je sais pas moi, quand il y a des marches, des panneaux ou un camion, des micros, enfin c'est vraiment un réseau d'entraide.
Ouais, mais enfin je suis d'accord, ça fait vraiment, enfin quand on vous voit ensemble, ça fait vraiment chaud au cœur, enfin de voir ça, et surtout, enfin je trouve en plus comme tu le disais bien, c'est des gens qui viennent de lutte un peu différente en soi, mais quand on vous entend, et en plus on voit que ça discute vachement à l'intérieur, et vous montrez bien comment, tout à l'heure tu parlais de la criminalisation des victimes, mais vous faites vraiment face, que ce soit les victimes de violences policières, pénitentiaires, mutilées pour l'exemple, un peu à la même machine à chaque fois, justement au moment où il faut se battre, ce qu'on disait là, pour la vérité ou pour la justice, vous faites face à la même machine, et dans la façon dont vous le dites, c'est quand même assez... clair, et enfin on vous entend parler, en vrai vraiment ça, c'est assez fort ce que vous arrivez à du coup donner comme message tous ensemble, je trouve, enfin quand vous...
et c'est ce que fait l'État, en fait il veut isoler les gens,
c'est ça, diviser pour mieux régner, nous on veut s'unir pour mieux combattre, justement
c'est ça. Mais t'es tout seul face à, même quand c'est toi qui as porté plainte, t'es tout seul face à un juge, enfin nous on le voit tous les jours avec la prison elle est là pour isoler les gens, notamment quoi, enfin on parle très souvent du quartier d'isolement, voilà, là il y avait la lettre de Libreflot qu'on lira la semaine prochaine, qu'on parle beaucoup, et on parle beaucoup de l'isolement, tout ça, et en fait c'est la même chose pour les familles qu'on subit des drames ou les personnes qui ont été blessées, ce qu'ils veulent c'est isoler, voilà, et en fait c'est la meilleure manière de répondre à l'État, c'est d'aller combattre en refusant ça, quoi. Et,
tout à fait.
Et c'est vraiment trop fort, et de toute façon voilà, bah, on se retrouvera autour de tout ça, et c'est moi je voulais vous dire que je trouvais ça vraiment très très chouette, parce que on sait aussi voilà qu'il y a pu parfois avoir des luttes entre certaines familles, voilà, et que réussir à dépasser ça, réussir à dépasser son cas personnel, ce qui est, et je jette pas la pierre à ceux qui n'y arrivent pas, hein, parce que c'est tellement dur ce que les gens vivent, que jamais je me permettrais de voilà, mais d'avoir réussi à faire cet effort là, voilà, de pas être toujours d'accord, mais qu'en fait on se serre les coudes parce qu'on sait c'est quoi l'essentiel, c'est vraiment cool, voilà. Et donc, en tout cas, déjà, franchement, merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de tout ça. Et vous êtes toujours les bienvenus dès que vous en avez envie. Et donc, on appelle vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de monde mercredi et samedi.
Oui.
Tu voulais nous dire
un
peu ?
Oui, juste, donc ça sera mercredi pour la dépose de la plaque commémorative pour Ibrahima. Sur la rue Federbe à Villers-le-Bel, sur le lieu du drame. Donc, rendez-vous à 16h30 avec le maire de Villers-le-Bel, entre autres, et le maire de Sarcelles. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, vous serez les bienvenus, mercredi 6 à 16h30, rue Federbe. Ensuite, le week-end du samedi, le samedi 9 octobre, à Sarcelles, rendez-vous à 13h, au 31 bis avenue du 8 mai. C'est juste devant la maison du droit et de la justice, à côté du commissariat de police de Sarcelles. Venez nous rejoindre pour cette marche en mémoire de Ibrahim Abar. Tous les
pas
bikers,
que, toutes les victimes.
Tous les bikers sont invités. La marche, elle va se dérouler comme l'année dernière, exactement comme on l'avait organisé, c'est-à-dire sans incident, dans un cadre légal. Nous avons le soutien de la ville. Il est important que, qu'on se rassemble ce jour-là pour honorer la mémoire de Ibrahima. Et comme l'a posté Ibo, avant de prendre sa moto, nous invitons vraiment tous les bikers à bien venir avec leur casque en règle. Pour ce samedi 9 octobre, la marche débutera au 31 avenue du 8 mai. Nous allons descendre l'avenue du 8 mai. Ensuite, le parcours sera l'avenue Paul Valéry et on ira jusqu'à la maison de quartier Valéry Watteau où il y aura des prises de parole. Il y aura des intervenants qui prendront la parole autour de repas, de restauration. Il y aura de la restauration et on pourra échanger et débattre. Voilà, ça sera vraiment un moment convivial pour pouvoir se retrouver et échanger.
Et pour en revenir sur cette histoire de la plaque, c'est juste déchirant de savoir qu'à moins de 400 mètres, il y a la plaque de Laramie et Mouchine. Et c'est sûr qu'à l'époque, on était à milieu de penser que la prochaine serait celle pour Ibo. Alors, combien de plaques faut-il pour qu'il y ait encore plus de gens qui se lèvent, qui viennent dénoncer ces violences et combien de familles vont attendre, enfin des personnes attendent que leur tour arrive au final. Parce que c'est sûr que, comme je le dis, moi j'étais à milieu de penser à tout ça et je voudrais souligner que ça peut arriver à n'importe qui. Qu'on se dise voyou ou pas voyou, ça peut arriver à n'importe qui. Donc ne jugez pas les gens, ne dites pas, voilà, c'est un petit voyou de banlieue qui était à moto, ben, il l'a cherché, Laramie et Mouchine, il n'avait qu'entre 16 et 15 ans. Est-ce qu'à cet âge, on mérite, il n'y a pas d'âge d'ailleurs, mais est-ce qu'on mérite de mourir tout simplement parce qu'on surquille la moto et que des criminels derrière l'uniforme jugent que, voilà, en vous parchoquant, ils font bien leur travail. Donc, nous appelons toujours à venir manifester sans incident. Pourquoi ? Parce que déjà, on a le souvenir de 2007. Avec les émeutes à Villiers-le-Bel, on ne veut pas avoir encore des frères se retrouver en prison pour tentative de meurtre ou incitation à la violence envers lorsqu'ils agressent les policiers ou qu'ils brûlent des voitures. C'est vrai que je peux comprendre que c'est douloureux, je le vis, mais on ne veut pas leur montrer encore, leur donner raison en disant « Regardez-moi ces sauvages et ces voyous, ils ne peuvent pas manifester autrement leur colère qu'en tuant, qu'en cassant, qu'en brûlant ». Et c'est pour ça qu'on sensibilise, on va dans les quartiers autour de Sarcelles, Garges, Villiers-le-Bel, et pour appeler les jeunes à venir manifester dans le calme, parce qu'on ne veut pas en voir encore en prison. Les jeunes de Villiers-le-Bel ont pris entre 3 et 15 ans. 15 ans de prison. Je parle des frères Camara, par exemple, qui ont pris entre 12 et 15. C'est hallucinant. Alors que je ne vais pas dire... Je ne vais pas attendre qu'il y ait mort d'homme, mais il n'y a pas eu mort d'homme dans leur cas à eux. D'accord ? Des policiers tuent. Ils n'ont même pas... lorsqu'ils ont une peine, ce qui est rare, c'est souvent du sursis. Alors qu'eux, ils prennent des pleins exemplaires de 12 allant de 3 à 15 ans. Et au final, on gâche leur avenir. Ce sont des jeunes adolescents qui sortent, ils sont adultes. Ils n'ont pas forcément un moyen de réinsertion. Ils ont une étiquette qui leur colle à la peau, à vie. Et on ne veut pas. On veut pas de ça pour les proches, les amis d'Ibo, pour les proches, tout simple, nos proches à nous, pour toutes les familles qui veulent nous soutenir, les jeunes qui veulent nous soutenir. Et on ne veut pas, justement, montrer ce visage-là. Mmh. Et donc, c'est vraiment venir en paix, marcher et communiquer, venir dénoncer. On leur donnera la parole s'ils ont des choses à dire sur les contrôles aux faciès, les violences en général qu'ils subissent au quotidien, surtout en banlieue. Voilà, et c'est de le faire vraiment, pas que pour Ibo, mais pour toutes les victimes de violences d'État, je dirais, de violences d'État, de crimes d'État, et aussi pour toutes les familles aussi qui se manifestent pas, qui parlent pas, mais qui vivent leur douleur dans le silence. Voilà, c'est une occasion de venir aussi s'exprimer.
Bref, il y a plein de choses, et moi je pense que c'est hyper important. Enfin, voilà, de ce truc de, on veut pas porter la responsabilité de reprendre des vies. Voilà, et je trouve que c'est important de le poser dans ces termes-là, ce qui est en même temps tout aussi, enfin, qui pose question, c'est que tu te retrouves, les gens qui avaient fait les émeutes, par exemple, à la suite du meurtre d'Adama, disaient bien aussi, sans les émeutes, vous les journalistes, vous seriez pas venus.
C'est vrai.
Et en fait, il y a toujours ce truc où les gens qui se révoltent de cette manière-là. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on puisse dire cette forme de révolte, elle est pas légitime. Voilà, en fait, je veux dire, on va pas, voilà, après derrière,
qu'elle soit légitime ou pas, les journalistes aussi, ils ont leur part de responsabilité là-dedans, parce qu'ils viennent seulement démontrer et filmer que quand ça brûle,
bien sûr.
Quand ça casse. Nous, on a fait des événements, on les a pas vus. On a fait une projection d'un film suivi d'un débat, on les a pas vus. Tant que c'est dans le calme, ils viennent pas montrer ce qui se passe. Non. Quand on fait des événements comme ça où vraiment tout est positif, il y a plein de choses positives à relever, on ne voit personne. Mmh. Mais dès que ça brûle, ça casse, ils sont là pour venir regarder ce qui se passe en banlieue. Non, ils ont aussi leur part de responsabilité, et ce sont aussi d'ailleurs les premiers à diffuser des communiqués criminalisant les victimes.
Mmh. Et c'est pour ça que, je comprends qu'on ne veuille pas donner cette image-là, mais en fait, cette image, elle sera toujours renvoyée par les policiers, oui. Et donc, moi, je pense qu'il faut garder son truc à soi. Ça reste légitime de s'exprimer de cette manière-là. C'est pas pour dire, mais je pense que c'est important de bien dire que c'est pas parce que c'est fait de cette manière-là que c'est pas légitime, quoi.
Tout à fait.
Voilà, en fait, il y a une forme d'expression politique qui est là, et pour avoir suivi beaucoup le procès de Beaumont, dont il faudrait qu'on fasse un compte rendu un peu plus détaillé de ce qu'on a fait, même les personnes qui étaient encore à la barre, et dont l'une des personnes qui a pris une peine de 12 ans, donc c'est vraiment monstrueux, c'est énorme, quoi, disait je l'ai fait parce que je savais qu'il y aurait jamais justice pour Adama, et que fallait que je me fasse justice moi-même à ce moment-là, dans mon moment de douleur, quoi. Et je pense qu'il faut l'entendre, ça, la réponse, c'est pas 12 années de prison à ça. Mais un juge est incapable d'entendre ça, un média n'est incapable d'entendre ça, mais nous, on est capable de je pense que c'est important de relayer cette parole-là aussi. Et c'est aussi important que ça se fasse selon, c'est vous qui décidez d'organiser cette marche, vous décidez de le faire de manière pacifiée, et c'est important que les gens qui viennent le viennent
dans cet état d'esprit,
dans ces conditions-là, et dans cet état d'esprit-là. Et ça n'empêche pas que les autres... merci mille fois d'être venu. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé à Vincennes. À la base, on avait un enregistrement aussi à passer de ce qui se passait au Canet, au centre de rétention, donc la prison pour étrangers du Canet qu'on n'a pas pu passer. Mais vous pouvez la retrouver dans l'émission de l'actualité des luttes qui passe le midi sur FPP. Donc vous pouvez le retrouver sur le leur site internet l'actualitédesluttes.net, si mes souvenirs sont bons, voilà, où il y a deux témoignages d'une proche et de deux personnes qui sont enfermées dans le CRA du Canet, donc n'hésitez pas à aller écouter. Et Arthur, tu voulais nous parler de ce qui s'est passé à Vincennes ces derniers jours.
Donc à la prison de pour sans-papiers de Vincennes, il y a des gens qui nous ont appelé de ce CRA il y a plusieurs fois ces dernières semaines pour raconter à quel point c'était la merde, la situation à l'intérieur. Et là, mardi, il y a eu au moins deux tentatives de suicide. Bon, c'est énorme, on parle souvent. À Vincennes, il y a deux personnes qui sont mortes, je crois, l'année dernière, qui ont fait des overdoses de médicaments, des médicaments qui sont distribués par les médecins du centre. Et donc là, en une journée, il y a eu deux tentatives de suicide. Et derrière, les prisonniers, ils se sont mis en grève de la faim donc pour protester. Ils ont sorti un petit témoignage qui a été relayé donc, sur Abalekra, donc un site qui relaie pas mal de paroles de prisonniers et de prisonnières en centre de rétention. Donc, je vous lis rapidement le petit témoignage. « Nous sommes en grève de la faim depuis lundi. » Donc ça a été écrit mercredi. « Cela fait deux jours. On n'en peut plus. Les frontières vers certains pays comme l'Algérie sont fermées. Il n'y a pas de vol et pourtant on continue de nous entasser ici. On nous traite mal. Les flics nous mettent la pression tout le temps. Ils fouillent régulièrement les cellules. De temps en temps, ils nous font des fouilles à nu. Ils débarquent à plein pendant qu'on fait la prière. Voilà pourquoi les détenus ont décidé de faire la grève de la faim dans notre bâtiment. Comme on ne peut pas être expulsé, pourquoi nous retenir? Qu'on nous laisse sortir. Pour le moment, la majorité tient. Des mecs de tous les pays participent. On a des contacts avec les autres bâtiments, mais ils n'ont pas encore suivi. En tout cas, les gens ici, ils n'en peuvent plus. Rien qu'hier, il y a eu deux tentatives de suicide. Un gars a accroché un drap dans les douches pour essayer de se pendre. Un autre a voulu faire ça dans la cour. À chaque fois, les flics les ont rattrapés et ils les ont emmenés à l'hosto. » Enfin voilà, enfin, pour dire, on en a souvent parlé, mais la situation dans les prisons pour sans-papiers, elle est vraiment dégueulasse, notamment depuis que on enferme les gens 3 mois là-bas. Et maintenant, avec le Covid, ils ont réussi à faire... Les gens, ils peuvent être enfermés jusqu'à 6 mois parce que pour un refus de test, enfin plusieurs refus de test, on peut se repartir pour un nouveau tour et on peut même maintenant faire des allers-retours. Enfin, on le faisait déjà, mais là, ça se multiplie. Là, on en parle beaucoup à cette antenne depuis 2 ans. En fait, ça se multiplie les personnes qui font 3 mois en CRA, après 3 mois en prison, puis 3 mois en CRA, bref, qui sont dans des boucles d'enfermement sans fin, et donc vraiment les gens pètent des câbles, enfin encore plus que d'habitude quoi.
On va passer à l'agenda, donc on rappelle mercredi à 16h30 à Villiers pour le je sais pas comment on dit, l'accolage de la plaque voilà, et samedi prochain à 13h devant la maison de la justice à Sarcelles. On rappellera jamais suffisamment à quel point c'est important qu'il y ait du monde, c'est un soutien qui est hyper nécessaire voilà, et qui fait du bien de se savoir pas seul, voilà, donc soyons nombreux. Donc il y a aussi à Rennes demain et dimanche, donc demain c'est au parc, je sais plus ce que nous
parc
disait
du Berry.
Parc du Berry,
sous la halle couverte Villejean, donc ça c'est à 14h demain, donc pour ceux qui seront à Rennes. Et dimanche toujours à Rennes, ça sera aux Ombres électriques 10 rue des 30, et là il y aura un repas, une présentation du bouquin, donc La peine de mort n'a jamais été abolie, dont on parlait. Et après, comme tu disais, Serge, donc la semaine prochaine, en fait, ça va être les 40 ans, là, le 9 octobre, de l'abolition de la peine de mort. Et du coup, on va présenter ça, le jour de la marche. Et donc, on va, nous, pendant la semaine, faire quelques présentations du bouquin à Paris. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent à l'extérieur, si vous êtes dans les parages, voilà, venez. Le mercredi 6 octobre, ça sera à la librairie L'Atelier, donc à Jourdain, dans le 20e. Ça sera à 20h. Le jeudi... ce sera au bar le Saint-Sauveur,
et il y a des problèmes de passe, donc on verra comment ça va se passer.
Mais le vendredi, en tout cas, ça c'est sûr, le 8 octobre, donc on sera à la librairie El Gorba, mon amour, avec Fatou Dieng, justement, qui est aussi dans le réseau Entrée, Vérité et Justice, dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça sera à 19h au 148-152 boulevard des Provinces françaises à Nanterre. Et le samedi soir, enfin fin de journée, on sera à Publico, dans le 11e arrondissement à Paris. Et donc voilà, vous retrouvez tous les.
La et dimanche aussi à 14h, on sera à la parole errante et il y aura aussi pas mal des copains et des copines du réseau.
Ouais. Tout ça, vous les retrouverez sur notre site, tous les rendez-vous.
Et il y a un visuel qui tourne aussi. On va passer les coucous. Donc il y a K qui passe un salut fraternel aux copains et à la copine qui se reconnaîtront. Crève la tôle, vive les potes, continuez à nous donner des nouvelles et force à toutes les familles, tous les proches, des affiches fleurissent un peu partout avec certaines de vos punchlines, ça fait trop du bien. Rendez-vous sur l'envolée.net pour ceux qui se motiveront dehors, à vite et big up à l'équipe. Toi, tu voulais faire aussi des petits coucous.
Je voulais faire un gros coucou à Youssef, j'espère que tu nous entends. En tout cas, merci beaucoup pour la lettre et j'attends de savoir comment s'est passé l'audience la semaine dernière. Un gros coucou à toi, à Karim et à Mehdi, du coup.
Un coucou à Flo, Kémy, Erwan, Lucien, merci pour la technique, force, courage et détermination. À la semaine prochaine, merci encore d'être venu et voilà.
Il
n'y a pas d'arrangement.
Merci.
Purple haze. And if you're hungry, girl, I got fillets. Ooh.